9 avril 2017. La présentation de l'enfant. Nous avons l'habitude de voir en Europe des enfants baptisés dans l'Église catholique, ou même baptisés dans l'Église protestante. Dans l'Église catholique, le baptême donne la vie éternelle, introduit l'enfant dans la vie éternelle et dans l'Église de Christ, et lui donne la nouvelle naissance. Par les paroles du prêtre, les prières, les gestes, le rite, Dieu donne le salut. Dans l'Église protestante, on est sous l'alliance d'Abraham. On n'est pas réellement sauvé, on est invité à respecter l'alliance d'Abraham. Et c'est l'équivalent de la circoncision, c'est le signe de l'alliance. De nombreux accords existent entre les églises protestantes et les églises catholiques, pour ne pas se heurter l'une à l'autre, mais plutôt pour se soutenir l'une à l'autre. Il est évident que beaucoup de couples, à la fois catholiques et protestants, ont confondu les deux choses et le baptême est devenu un rite sacré pour tout enfant que l'on voudrait protéger de la mort et de l'enfer et du péché. Est-ce qu'il en était ainsi au départ? Est-ce que le christianisme a dit des choses semblables? Il faut d'abord savoir que dans l'Église chrétienne, jusqu'en 265, il n'y avait pas de prêtre. Le prêtre est apparu avec saint Cyprien de Carthage, qui a inventé le prêtre. Pour mémoire, l'Empire romain a reconnu la religion chrétienne comme religion officielle en 313. À cette époque-là et auparavant, de nombreuses autoroutes, les voies romaines, sillonnaient l'Empire. De nombreuses voies, le long desquelles il y avait des temples officiels avec des prêtres, et des vêtements apparentés à ceux de l'Église catholique actuellement. Ces prêtres donnaient par des rites, donnaient des assurances de protection divine aux personnes. Lorsque cette religion officielle fut dégommée, désinstallée, et que le christianisme prit la place, de nombreuses personnes gardèrent la mentalité précédente. Obligés d'être baptisés, ils devinrent chrétiens de nom. Ils réclamèrent peu à peu des prêtres, des intermédiaires entre eux et Dieu. D'où l'apparition du prêtre, une copie de l'Ancien Testament, alors que l'Épître aux Hébreux nous invite à ne pas reconnaître d'autres sacerdoces que le sacerdoce unique de Jésus-Christ. Dans Hébreux, il est clairement dit que le sacerdoce de Christ, sa prêtrise, est intransmissible. Et Cyprien de Carthage a tout de même franchi la limite de la ligne rouge, et derrière lui se sont engouffrés des centaines, voire des milliers d'anciens prêtres païens, devenus chrétiens de nom. Plus tard, quelques dizaines d'années plus tard, un homme de la même région, qu'on appelle saint Augustin, a inventé les rites sacrés, les rites par lesquels les prêtres donnaient la vie éternelle, le pardon du péché. Et donc, avec Augustin apparaissent bien sûr des choses formidables, mais aussi, de manière catastrophique, l'apparition des sacrements, des rites qui sont des moyens et sources de salut, et qui sont tous les jours pratiqués encore dans l'Église catholique. Pour nous, chrétiens évangéliques, Jésus a dit dans Marc chapitre 16, verset 16, « Celui qui croit qu'il est baptisé sera sauvé, celui qui ne croit pas sera condamné. » Il est donc clair que celui qui n'a pas la foi n'est pas sauvé, même s'il est baptisé. Le baptême ne donne pas le salut. Précédemment donc, à Constantin, le baptême était un signe chez le converti, un acte d'obéissance. Et il ne donnait pas la vie éternelle. Il reconnaissait, il démontrait devant les puissances invisibles et visibles l'autorité de Jésus-Christ dans la vie de la personne et sa consécration, la réalité de son salut. Les parents ont besoin de comprendre aujourd'hui que le christianisme, le vrai christianisme, n'est pas celui qui est prêché par l'Église catholique ou l'Église protestante officielle. Le vrai christianisme est prêché dans la parole de Dieu uniquement, dans sa parole. Voici ce que dit la Bible dans 1 Samuel 1, verset 22. Je mènerai l'enfant afin qu'il soit présenté devant l'Éternel. Dans Luc chapitre 2, verset 22, Joseph et Marie portèrent Jésus à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Dans Marc chapitre 10, verset 13 à 16, on amena des petits-enfants à Jésus afin qu'il les touchât. Mais les disciples reprirent ceux qui les amenaient. Jésus leur dit, laissez venir à moi les petits-enfants. Ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Puis il les prit dans ses bras et les bénit en leur imposant les mains. La qualification d'enfant de Dieu, bien sûr, n'est pas liée à l'âge, elle est liée à l'état spirituel. Nous voyons dans Romains 14, 17, que le royaume de Dieu n'est ni le manger ni le boire, mais paix, justice et amour selon le Saint-Esprit. Et nous savons que le Saint-Esprit est donné au moment où on a cru, on a accepté la parole de Dieu, accepté la mort de Jésus pour nos péchés et sa résurrection pour notre gloire, notre vie nouvelle. Ainsi donc, Jésus nous amène à une vie nouvelle. Nous avons des devoirs. Proverbe chapitre 22, verset 6. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Deutéronome 11, verset 18 et 19. Mettez dans votre cœur et dans votre âme ces paroles que je vous dis. Vous les enseignerez à vos enfants et vous leur en parlerez quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Dans Éphésiens chapitre 4, verset 6, « Père, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. » Nous avons aussi une indication concernant les mamans dans la première à Timothée, chapitre 5, verset 14. « Je veux donc que les jeunes, bien sûr les jeunes femmes, se marient, qu'elles aient des enfants, qu'elles dirigent leur maison » et ne donne à l'adversaire aucune occasion de médire. Donc des femmes mariées qui élèvent leurs enfants, qui dirigent leur maison. Les diriger, bien sûr, dans le sens de la volonté de Dieu. Voilà, nous avons des indications et nous avons aussi des promesses. Celui qui craint l'Éternel a un appui solide. Ses enfants trouvent en lui un asile. Proverbe chapitre 14, verset 26. La bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants. Psaume 103, verset 11. Quelle est la véritable parenté spirituelle? Est-ce que nos enfants sont nos enfants? Est-ce que Jésus a parlé de l'enfance? Ou de la fraternité, de la fratrie? Dans Luc chapitre 8, versets 21 et 15. Luc chapitre 8, verset 21. Jésus répondit, ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Au verset 15, ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Bien sûr, Jésus parlait ici de la semence de la parole. Donc on voit réellement que la parole, considérée comme une semence venue de Dieu, doit rencontrer un cœur honnête, bon et persévérant. Ainsi donc, il y a un acte de responsabilité, il y a un acte de liberté pour recevoir la parole de Dieu, donc pour la foi. Et la fratrie que Jésus inaugure est une fratrie dans la sainteté, dans la parole sainte de Dieu. Dans Jean chapitre 17, verset 17, « Ma parole est la vérité. » Nous avons donc une parenté spirituelle. Un enfant, lorsqu'il est présenté à l'Église, pour que l'Église prie pour cet enfant, avec ses parents, pour que les parents prennent un engagement devant tout le monde, devant les puissances invisibles et le monde visible. Quand les parents prennent cet engagement, ils ont besoin d'être bénis également par Dieu. Leur tâche est difficile. Il faut engendrer spirituellement leur enfant à la vie nouvelle. Il s'agit de deux naissances, la naissance physique, la sortie du ventre de la maman, et ensuite la sortie du monde, du chaos, du péché, de l'égarement, pour une vie dans la sainteté, une vie dans la volonté de Dieu, comme Jésus l'a demandé. Donc, ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Voilà donc ce que Jésus dit. Et donc, un papa et une maman, lorsqu'ils se présentent, viennent pour s'engager dans un nouveau chemin. Non pas seulement le chemin de la paternité, de la maternité biologique et psychologique, mais dans la paternité de Dieu sur l'enfant, dans l'humilité à se mettre sous le même Père, sous la même autorité, la parole de Dieu, et dans le même appel à la sainteté. La présentation est donc un acte très important. Les paroles ne sont pas des paroles en l'air. Dieu les entend, Dieu les bénit ou les rejette. Nous avons le cas, dans le premier livre de Samuel, au chapitre 1, au chapitre 2, de Anne, cette femme qui ne pouvait pas avoir d'enfant, et qui un jour, à force de prier, de supplier le Seigneur, eut un enfant. Elle promit de donner cet enfant à Dieu pour son service. Et à l'âge de 3 ans, entre 3 et 4 ans, elle l'amena au temple pour qu'il serve Dieu et devint un grand prophète. Combien de parents aujourd'hui, de maman et de papa, prennent un engagement si solennel d'offrir leur enfant à Dieu pour le service de Dieu et de sa parole. Cela est devenu rare. Notre mentalité moderne est de mettre l'enfant au service de lui-même. C'est lui le centre de sa vie. Et les parents, les enseignants doivent être au service de la croissance de son jeu, du moi-jeu. Nous sommes très loin de ce que Anne a fait. De la même façon, Élisabeth, Zacharie, pour Jean-Baptiste, avaient un enfant pour Dieu. De la même façon, Marie et Joseph avaient un enfant pour Dieu, qui a grandi en sagesse, en stature, dans la parole de Dieu, et dans une vie simple, une vie de travail, une vie simple. Regardons ce qui est dit dans Matthieu au chapitre 19. Matthieu donne des indications sur la qualité du couple, qui est l'enracinement de l'enfant. Voici, au chapitre 19, verset 3, jusqu'au verset 12. Les pharisiens abordèrent Jésus et dirent pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque ? Donc pour n'importe quel motif. Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et deux deviendront une seule chair, donc une seule humanité. Ainsi ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Nous sommes loin de la négociation des jeux, de l'analyse transactionnelle, et d'une relation négociée. Pour que les deux jeux soient démontrés, il s'agit d'une seule communauté de corps et d'esprit, unis par Dieu, travaillés par Dieu, comme l'argile dans les mains du potier. Et il n'y a pas de motif de séparer l'homme et la femme, sauf motif extrêmement grave, comme la violence répétée, comme l'adultère répété. Alors, ces hommes qui sont durs demandent à Jésus, mais pourquoi donc Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier ? Il répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Oui, Moïse, qui était l'ami de Dieu, qui a servi Dieu, s'est endurci et a répudié ses efforts à sa femme. Il était une femme de caractère et de grande foi. Il prit une femme éthiopienne. Nous voyons que Moïse est tombé lui-même dans l'égarement, dans la répudiation, et l'a autorisé de ce fait pour les autres. Il est devenu une institution en faveur des hommes et un outil de mépris à l'égard de la femme. Dieu n'a jamais voulu ce mépris pour la femme, ni ce rejet. Nous devons comprendre que la vie de couple est nécessaire dans une union profonde pour la croissance de l'enfant. Regardons ce que dit Jésus encore. Ses disciples lui dirent, parce que non seulement les pharisiens étaient là, mais les amis de Jésus étaient là. Ses disciples lui dirent, si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. Nous voyons dans cette parole des disciples, des 12 apôtres, beaucoup d'amertume, beaucoup de colère, car ils ne considèrent pas les paroles de Jésus comme positives. Ils pensent être dégradés, perdre tout leur avantage, et donner un statut à la femme qui les humilie. On voit ici vraiment que l'orgueil est le motif principal, sauf s'il y a la nouvelle naissance, bien entendu. Alors Jésus répond ceci, gentiment mais clairement, tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Ainsi donc, l'appel de Dieu pour une vie de couple unie, profondément soudée, n'est pas donné à tout le monde. C'est une grâce de Dieu. Ce n'est pas un fait humain. Au verset 12, il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère, donc des personnes qui, dans leur sexualité, est peut-être très, très absente. Il y en a qui le sont devenus par les hommes, des personnes qui ont été faites prisonniers et qui sont castrées. Et il y en a qui se sont rendus tels eux-mêmes à cause du royaume des cieux, que celui qui peut comprendre, comprenne. Donc il ne s'agit pas de quelqu'un qui se mutile, qui coupe son sexe, mais de quelqu'un qui ne laisse pas l'esprit d'orgueil, du mal, dominer sur la femme en lui. C'est quelqu'un qui ne tombe pas dans l'arrogance et la domination sur la femme, et dont le caractère masculin n'est pas un avantage pour une supériorité malsaine. Voilà l'eunuque qui se rend par lui-même eunuque. C'est un eunuque spirituel, c'est quelqu'un qui n'a plus de fantasme et d'envie dominatrice pour faire de la femme un objet de consommation, puis un objet de rejet. Dans l'histoire, malheureusement, Origène d'Alexandrie a mal compris ce verset et dans un grand moment d'égarement s'est mutilé, ce que Dieu n'a jamais demandé. Dans des moments d'égarement à travers les siècles, le christianisme catholique a préconisé que les hommes ne se marient plus pour servir Dieu, que les femmes ne se marient plus pour servir Dieu. C'est une interprétation abusive. On a vu à travers l'histoire que qui fait l'ange fait la bête. Nombreux cas de scandale cachés encore ou déjà déclarés, dévoilés, nous montrent bien que ce célibat n'était qu'une règle, non pas une grâce de Dieu. Regardons toujours Matthieu chapitre 19, verset 13. On lui amena des petits enfants, afin qu'il leur imposât les mains et pria pour eux. Mais les disciples les repoussèrent. Nous avons effectué énormément de camps d'enfants, nous avons vu beaucoup d'enfants aimer Dieu, accueillir Dieu, et puis dans les années qui ont suivi, ce besoin de Dieu, cette sensibilité profonde pour Dieu, a été piétinée, mutilée. On retrouve ces enfants à l'âge de 12 ans, 14 ans, sans aucun sens de Dieu, pour la plupart. Ils sont même parfois des ennemis de Dieu, des ennemis de la foi. Jésus sait que les enfants ont un cœur ouvert à Dieu. Le livre de l'Ecclésiaste dit que Dieu a imprimé un désir d'éternité dans le cœur de chaque homme. Eh bien, ces enfants reconnaissent ce besoin de Dieu. Et ils ont besoin du secours de Christ dans ce monde adulte où le péché domine. Ils ont besoin de la grâce de Christ pour continuer à connaître Dieu, parce que Jésus est doux et humble de cœur. Jésus est un chemin de paix pour les enfants, un chemin de transformation que l'enfant comprend bien. Jésus a dit, dans Matthieu 19, verset 14, « Laissez les petits-enfants, ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. » Il leur imposa les mains et partit de là. Nous voyons que l'enfant recourt à Jésus et que l'enfant ne trouve pas dans le monde des adultes ce complément d'âme, comme a dit Bergson, ce complément d'âme, ce supplément d'âme quotidien qui le fait grandir. Et c'est par Jésus qu'il le trouve. Nous allons regarder au chapitre 18, au verset 3, de Matthieu toujours. Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble, comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit mon nom, un petit enfant comme celui-ci, me reçoit moi-même. Et si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendît à son cou une meule de moulin qu'on jeta au fond de la mer. Malheur au monde à cause des scandales. C'est bien évidemment ce que nous voyons à travers tous les enfants que nous avons rencontrés. Nous avons vu ce massacre spirituel exercé par les adultes. Il est très rare que des adultes aient encouragé la vie spirituelle, la rencontre avec Jésus et la recherche de Dieu chez les enfants. Nous croyons que présenter un enfant, c'est affirmer une ouverture à Dieu dans la vie de l'enfant. Et c'est même y contribuer. Et c'est même demander à Dieu la bénédiction, sa grâce active dans la vie des parents pour aider cet enfant à aimer Dieu et le connaître. La présentation n'est pas un baptême, elle ne donne pas la vie éternelle, mais la présentation et la démonstration que les enfants ont un chemin pour la vie éternelle et que les parents ne se mettent pas en travers. La présentation est aussi une démonstration que les parents connaissent la valeur précieuse de la vie éternelle, la valeur précieuse de la personne de Dieu et de Jésus-Christ, son Fils, et qu'ils veulent contribuer à la réussite éternelle de leur enfant. Nous croyons, chers amis, que la présentation n'est pas un acte anodin. Elle est majeure dans la vie de l'enfant. Elle restera dans l'invisible. Elle restera comme la semence dans le sol, aux parents de développer un caractère bon, honnête et persévérant, bien disposé envers la parole, et éduquer cet enfant. Dans le premier livre de Samuel, le chapitre 1, verset 28, « Merci Seigneur de nous avoir donné cet enfant. » C'est les paroles d'Anne, bien sûr. Nous les transformons un petit peu et nous disons publiquement, « Nous te redonnons cet enfant, car tu nous l'as prêté. » Nous nous engageons à l'élever pour toi et non pour nous. Il n'y a pas de commandement institutionnel dans la Bible pour une présentation d'enfants. Mais nous sommes heureux de le faire à cause des exemples cités dans l'Écriture. Celui de Marie et Joseph, celui d'Anne. Et par tout l'esprit des prédications de Jésus. Nous croyons que chacun de nous doit se remettre en question. Une école chrétienne, de plus, n'est pas une école cléricale. Une école qui favorise la rencontre de Jésus, une école qui favorise la croissance spirituelle dans l'Évangile, à la différence de tout ce qui s'est passé, n'est pas une école cléricale. Elle n'impose rien, mais elle propose. Et elle ne se mêle pas d'imposer des opinions politiques, des opinions ecclésiastiques, institutionnelles aux parents. Elle demande aux parents, et avec leur accord, elle demande aux parents de semer la parole de Dieu dans le cœur des enfants. Et l'école y contribue. Elle tente à développer toutes les qualités affectives et personnelles de l'enfant. Une école chrétienne est spirituelle ou elle n'est pas. Une famille chrétienne est spirituelle ou elle n'est pas. Que Dieu vous bénisse.